Bonsoir à tous, merci d'être nombreux ce soir pour cette séance inaugurale du cycle porté par la BPI consacrée à Édouard Glissant et que nous avons intitulé avec François Noudelman « Édouard Glissant, réel et utopie ». La séance de ce soir sera consacrée à Édouard Glissant, une philosophie de la relation. Elle sera animée par François Noudelman, que je n'ai peut-être pas besoin de présenter, mais que je présente malgré tout. Donc François Noudelman est philosophe et professeur à l'université Paris 8. Je vais le laisser, bien sûr, présenter les différents intervenants que vous allez entendre ce soir. Je vous précise par ailleurs qu'à 20h30, François Noudelman, qui vient de publier chez Flammarion une biographie d'Édouard Glissant, fera la dédicace de son ouvrage, si vous le souhaitez, à la sortie de la salle. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Sébastien Golus, pour cette organisation et permettre, une fois de plus, qu'au Centre Pompidou, la pensée et l'œuvre d'Édouard Glissant soient mises à l'honneur. Il y a une véritable actualité d'Édouard Glissant depuis sa disparition en 2011, surtout à l'international, on ne le sait peut-être pas trop, mais aux États-Unis, au Japon, en Tunisie, au Brésil, bien au-delà finalement de sa définition habituelle d'écrivain antillais ou d'écrivain francophone. Édouard Glissant est un écrivain du tout monde. Ce mot qu'il a conçu pour dire la relation entre tous les lieux de la Terre, mais aussi entre les langues, entre les individus et les cultures, ce mot composé avec monde est presque devenu, d'ailleurs, je remarquais, une mode de langage. On dit beaucoup maintenant quelque chose monde, l'université monde, la littérature monde, la pensée monde, comme pour essayer d'exprimer un besoin de, oui, d'élargissement, un besoin d'ouverture vers le lointain, l'ailleurs. De fait, Glissant a construit une pensée qui, partant de sa culture, qu'il n'a jamais oubliée, hein, la culture d'un pays dominé, minoritaire, s'adresse au fond à tous, ou plutôt à chacun, puisque c'est dans la singularité des réceptions que se dit aujourd'hui la pensée d'Édouard Glissant. Pour donner une idée de ce qu'on a pu appeler entre nous un printemps Édouard Glissant, je voudrais juste citer quelques manifestations organisées ce mois-ci, enfin en mars, à Miami, à Fort-de-France, à Tokyo, et bientôt aussi en mai, des rencontres internationales, 3 jours, consacrées à Édouard Glissant, organisées par les universités de Paris 1, Paris 4, ici présent, à travers Romuald Fourcroy, Paris 8, l'École des hautes études en sciences sociales, la BNF, ce sera un grand moment. Et puis aussi, je voudrais évoquer, parmi les nouveautés, un nouveau site internet, edouardglissant.world, pour bien signifier aussi que c'est l'ouverture au monde, qui sera un site participatif et qui s'ouvrira à toutes les recherches qui se font dans le monde à propos de cette œuvre et de cette pensée. Pour autant, cette pensée qui se développe et qui devient presque populaire est quand même complexe. Et on voudrait insister là-dessus ce soir parce qu'elle ne se réduit pas à quelques slogans comme « métissez-vous »,« mélangez-vous »,« admettez la diversité ». Non, en fait, c'est une pensée qui est nourrie de nombreuses expériences de vie d'Édouard Glissant, expériences de vie qui sont celles du racisme, de la lutte pour les indépendances, aussi l'expérience des hybridations culturelles dans différents pays du monde, mais qui est nourrie aussi par une solide base et réflexion philosophique. Et ça va être le sujet de cette première soirée, qui est le rapport d'Édouard Glissant à la philosophie. Cette référence à la philosophie est à la fois évidente et complexe. Évidente, pourquoi ? Parce que dès son arrivée en 1946 à Paris, Édouard Glissant s'est inscrit à la Sorbonne en philosophie. Il a suivi les cours, par exemple, de Gaston Bachelard, qui d'ailleurs l'a pris un peu en amitié, s'est occupé de lui. Et puis, on pourrait citer Maurice Merleau-Ponty, et puis Jean Val aussi, auquel certains d'entre nous ici, enfin, Romuald Fourcroy notamment, Annie Chavez aussi, ont consacré aussi des pages sur ce rôle très important de Jean Val. Et puis, quand il a enseigné dans l'institut qu'il a créé, l'Institut Martinique et l'Étude, il a enseigné la philosophie. Complexe aussi parce que cette relation à la philosophie, elle est critique. Édouard Glissant n'a cessé de dénoncer les pensées de l'un pour essayer de construire une sorte de de contre-histoire de la philosophie. Mais il a aussi eu des compagnons pour cela, des compagnons philosophiques qui étaient dans un rapport critique à cette histoire occidentale de la philosophie. On peut citer, bon, parmi les plus proches, bien sûr, Félix Guattari, Gilles Deleuze, mais aussi Jacques Derrida, avec qui il a entretenu un dialogue jusqu'à la fin de l'existence de Derrida. Et puis, on va en parler ce soir, il a inventé un certain nombre de concepts, figures, schèmes, notions, j'en citerai quelques-unes, traces, identité, relations, digenèse, archipel, opacité, tout le monde, etc. Alors j'ai invité, puisque Sébastien Godelus m'a donné cette responsabilité, trois grands spécialistes qui travaillent depuis longtemps sur l'œuvre d'Edouard Glissant, pour éclairer cette démarche philosophique ou ce rapport à la philosophie. Celia Britton, qui est membre de la British Academy et qui nous fait le plaisir, l'honneur de venir de Londres pour cette séance, et qui connaît donc depuis très longtemps l'œuvre et la pensée d'Edouard Glissant, auquel elle a consacré un livre de référence en 1999, Edouard Glissant and Postcolonial Theory, Strategies and Language and Resistance, qui a été publié à University Press of Virginia, et qui a continué à travers ses études à creuser la pensée d'Edouard Glissant et puis d'un certain nombre d'auteurs, de penseurs de la Caraïbe. Romuald Fonquoy, professeur à Sorbonne Université, lui aussi compagnon de très longue date d'Edouard Glissant, auteur d'un texte, d'un livre qui est toujours une grande référence, qui a été vraiment pionnier, qui s'appelle « Essai sur une mesure du monde au XXe siècle », Edouard Glissant, paru chez Honoré Champion en 2002. Et puis Alyosha Balazovski, professeur à l'Université catholique de Lille, et alors lui qui a publié une introduction magistrale qui sert aujourd'hui à faire connaître l'œuvre d'Edouard Glissant, l'œuvre à la fois la poésie, le roman, la philosophie, les relations à l'art, qui s'appelle « Edouard Glissant, penseur des archipels », paru en 2015 aux éditions Pocket. Alors, le principe de cette soirée, c'est que chacun dise un mot de manière assez libre sur la relation d'Edouard Glissant à la philosophie, avec chacun son point de vue. Et puis après, on a une petite discussion entre nous à la suite de chaque intervention. Ensuite, aux alentours de 20h, 20h10, tous celles et ceux qui souhaiteront leur poser des questions pourront intervenir. Alors, je propose que Romuald Fonquoy commence. Et je lui avais dit, Romuald, est-ce que tu pourrais parler de Jean Val, parce qu'il a écrit un article vraiment magnifique. Il travaille sur des choses peu connues d'Edouard Glissant, sur le rôle Jean Val, ou bien sur tel ou tel aspect. Il me dit, non, je parle de ça. Je dis, bien sûr, tu parles de ce dont tu as envie de parler. Et alors, il a proposé de parler de la relation, en fait, à la philosophie qu'ont les penseurs africains ou caribéens, et bien sûr, à travers son discours, c'est d'Edouard Glissant qu'il s'agit. Donc, merci de ta présence, Romuald, et tu as un micro, c'est à toi.
Merci, j'avais complètement oublié qu'il fallait parler dans un micro. Mais écoutez, merci d'être là, merci François. Mon propos sera un propos assez court, puisque François m'a dit de tenir dans 10 minutes, donc je vais essayer de tenir dans 10 minutes. J'avais envie de prendre en fait la parole pour parler à la place des trois autres, mais je n'ai pas la possibilité de le faire. Parce que Glissant est un personnage que je trouve intarissable, en fait. Et une fois qu'on rentre dans son œuvre, on a l'impression de ne pas en sortir. Donc je m'en tiendrai ici au tout début, c'est-à-dire aux années 50, à la période au cours de laquelle il arrive à Paris, jeune étudiant, il va s'inscrire en philosophie à la Sorbonne. Telle qu'elle était dans les années 50, ce n'est pas celle que vous connaissez aujourd'hui, ni celle que je connais d'ailleurs aujourd'hui. Cette inscription, dans mon esprit à moi, se situe dans une sorte d'obsession qui est celle des jeunes, et même vieux, africains et antillais, qui découvrent Paris au lendemain de la guerre et qui veulent imposer ce que Alioune Diop va appeler lui-même dans sa revue une présence africaine. Et c'est le titre de la revue que va créer à l'UNGEP en 1947 et qui va devenir ensuite, comme vous le savez, sans doute la maison d'édition du même nom, qui se trouve, je fais la petite publicité pour la maison, c'est 25 rue des Écoles, au cas où vous demanderiez, n'est-ce pas, des ouvrages sur l'Afrique et les Antilles. Fin de publicité. La revue existe toujours. Et donc, c'est cette présence africaine qui ne peut se faire que dans l'espace qui est celui de la pensée, dans l'espace qui est celui de la philosophie. Et quand on regarde un tout petit peu les itinéraires des uns et des autres, de René Ménil par exemple, ou bien d'Aimé Césaire, on s'aperçoit, et un peu plus tard, des doigts glissants qui va suivre les pas de ces deux précédents, on s'aperçoit que la philosophie chez eux est une sorte d'obsession. Césaire, déjà en 1944, participe au grand congrès de philosophie qui a eu lieu en Haïti. René Ménil va s'inscrire lui aussi en philosophie et va même passer des diplômes de philosophie. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent tous faire la philosophie? À mon avis, c'est pour une raison que je crois assez simple. C'est que longtemps, la philosophie a servi d'alibi pour ne pas penser, en quelque sorte, les sociétés qui sont des sociétés sauvages, colonisées, non civilisées, indigènes. Et parce que la philosophie était censée être simplement la discipline des sociétés civilisées, européennes, occidentales et modernes. Et un peu comme si, finalement, cette discipline-là, qui était une discipline reine de la réflexion critique, était en quelque sorte, ne pouvait pas donner droit de cité aux Africains et aux Antillais. Et à cela, il me semble qu'il y a une explication, c'est que la philosophie telle qu'elle se construit à cette époque-là, au début des années 50, telle qu'elle s'enseigne en France en particulier et dans les universités françaises, est liée à l'ethnologie. C'est-à-dire qu'au fond, la grande discipline, c'est la philosophie. À l'intérieur de cette discipline, c'est l'ethnologie. Donc, en fait, on a fait une séparation, si j'ose dire, des disciplines, une sorte de division du travail intellectuel, avec à gauche, bien sûr, l'ethnologie pour les nègres, les antillais, les africains, etc., disons les sauvages, ceux qui ne savent fonctionner que dans les ethnies, et de l'autre, la philosophie qui, en fait, est réservée aux gens de bien. Alors, tout le défi de ces intellectuels, c'est bien de conquérir cet espace-là. Ce qui va d'ailleurs être le clou de cette prise de conscience, c'est la publication en 1949 de la fameuse philosophie bantoue du révérend Pierre Temples. Bon, personne n'est obligé d'être belge, hein, mais c'est un peu ce que disait Césaire en quelque sorte, n'est-ce pas, quand il parlait, n'est-ce pas, des Belges dogoneux, il pensait à Temples, parce que Temples invente bien sûr l'idée qu'il existe bien sûr une philosophie. Mais cette philosophie est une philosophie bantoue. Or, la philosophie bantoue repose sur quoi ? Ben, sur quelque chose qui est un peu contraire à la philosophie, au fond. Et il invente un texte qui est aujourd'hui totalement critiqué, la philosophie bantoue, mais il invente en même temps un mot qui est absolument génial. C'est accoler deux termes qui, jusque-là, n'avaient pas droit de citer, bantoue à gauche, philosophie à droite. Et donc, évidemment, il essaie de faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose que l'on peut appeler philosophie, même si cette chose-là ne ressemble pas à ce qu'on pense être la philosophie en Occident. Alors, il va ouvrir une porte en 1949 qui est absolument intéressante, la porte selon laquelle il existe une philosophie, celle-ci est bantoue, il conviendrait peut-être à la fois de la prolonger, de savoir ce que ça va être, donc ça va donner la fameuse ethnophilosophie, et de l'autre, il faudrait critiquer l'ethnophilosophie pour pouvoir inventer une philosophie, et c'est dans ce sens-là que va se situer quelqu'un comme Glissant aux alentours des années 50. Mais si l'on ne rappelle pas cette histoire, on ne comprend pas toute l'importance qu'il y a à la fois dans le domaine de la philosophie en Afrique, à une critique qui est la critique de l'ethnophilosophie, qui va durer jusqu'au début des années 80, hein, 1980, je le rappelle, et de l'autre, un intérêt pour une philosophie que l'on peut retrouver précisément chez Glissant, à savoir non pas simplement, comme il sera question dans ses relations avec Val, de cette conception qui est celle du cogito, dont je pense, je suis, mais également de cette conscience qui est la conscience de l'être en soi, sans quoi on ne peut pas philosopher. On ne peut pas philosopher. Je crois que toute une partie de l'œuvre de Glissant, toute une partie de sa pensée, toute une partie de son rapport à la littérature, à la poésie, à l'essai, au roman, se situe précisément dans cette conscience-là, qui est la conscience de la prise en compte de l'être et du sujet pensant, parce que tout être, quel qu'il soit, peut être un sujet pensant. Et c'est ce que va lui révéler, en quelque sorte, la rencontre avec Jean Val. Et symptomatique aussi de cet intérêt pour la philosophie, c'est le premier essai qu'il va publier, Soleil de la conscience, 1955, mais c'est en quelque sorte le début de la... précisément d'une réflexion qui est une réflexion assez grande sur quelle philosophie peut-on inventer pour pouvoir justement construire une pensée philosophique nègre ou antillaise. Il me semble que dans cet essai, il a une intuition qui est que, alors que toutes les philosophies jusque-là étaient des philosophies disons en Occident, qui tentait en quelque sorte de construire le sujet avec une rationalité. Chez les Antillais et de façon plus précise encore chez les esclaves noirs ou chez les descendants d'esclaves noirs, il y a à vouloir construire le sujet, d'abord à s'interroger sur la forme que doit prendre la forme pour construire le sujet. C'est-à-dire, en gros, c'est comment est-ce qu'on va se mettre dans une antériorité de la présence du sujet pour pouvoir penser le sujet. Là, il ouvre une porte qui est une porte absolument gigantesque, qui n'a d'ailleurs jamais refermé, gigantesque sur les conditions de la pensée de l'esclave, les conditions de la pensée du nègre, la condition de la pensée de décoloniser, les conditions de la pensée des descendants nègres. Alors, il y a là toute une foule, en fait, de pensées qui font que, au fond, quand on entre chez Glissant, c'est par là que je commençais et c'est par là que je vais m'arrêter, quand on entre chez Glissant, on ne finit plus. Parce que comment poser la question de la forme ? Comment poser la question de la forme de la forme ? Comment poser la question de la critique de la forme ? Alors, il y a là une multitude de sujets sur lesquels je pense que peut-être que des cours de philosophie devraient sans doute être menés aujourd'hui. Est-ce que j'ai tenu mon temps ? Oui, j'ai tenu exactement les 7 minutes qu'il fallait. Merci.
On va réagir un petit peu tous les trois aux propos de Romuald Foncoy. Juste une petite question quand même sur le langage de la philosophie. Parce qu'effectivement, Édouard Glissant accède à un langage de la rationalité occidentale. On sait d'ailleurs, les manuscrits nous le montrent, qu'il prenait avec un soin presque, je dirais, sans offense, hein, mais scolaire, hein, très très précisément, ses cours de philosophie. Il apprenait Hegel très précisément, et tous ses auteurs, etc. Bon. Et à côté, il y a quand même évidemment son activité de poète. Alors, on pourrait dire, est-ce que ce sont deux activités totalement séparées, c'est-à-dire il suit les cours à la Sorbonne et il s'applique à faire ses fiches, et à côté, il écrit la poésie. Et puis, en même temps, il y a quand même, ça se rejoint un peu, puisqu'il est auprès de deux professeurs qui ont quand même l'oreille, portent l'oreille vers les textes poétiques. Bon, Bachelard, on le sait, c'est le moment de ses textes sur l'imaginaire des éléments, hein, psychanalyse du feu, etc., l'eau et les rêves, etc. On sait que ça a compté beaucoup pour Édouard Glissant, puisque même son dernier livre, l'Anthologie, est une sorte d'allusion à ses textes de Bachelard. Et puis Jean Val, puisque Jean Val, quand même, s'intéresse à la poésie et accepte un mémoire, hein, quand même, qui lie la poésie et la philosophie.
Oui, moi je pense qu'en fait il y a ces deux éléments que tu viens d'indiquer, à savoir la fascination pour Bachelard ou l'influence de Bachelard d'un côté et l'influence de Jean Val de l'autre. Alors accessoirement, je signalerai quand même que dans un cas comme dans l'autre, mais plutôt dans l'autre que dans l'un, je connais beaucoup mieux Jean Val de ce point de vue-là que Bachelard. Jean Val avait été très intéressé par les étudiants africains qui arrivaient à Paris. Il a fréquenté pendant longtemps présence africaine, par exemple. Donc, il était très proche, en fait, de ses étudiants avec qui il discutait assez régulièrement. Il a été très intéressé également par la poésie noire, par la poésie des Africains, par la poésie des Antillais. Et je crois que quelque part, ça a sans doute nourri chez lui une certaine réflexion sur le rapport qui peut exister dans la philosophie sur la question de la durée. Sur la question de l'instant, la question du temps, qui sont en fait les questions qui l'animaient lui-même, hein, en tant que professeur de philosophie. Et je pense que ces interrogations sur le temps, sur la durée et surtout sur l'instant sont des questions qui vont également intéresser Glissant. À partir de quel moment est-ce qu'on peut penser de façon assez concrète le temps ? À partir de quelles conditions on peut penser la durée, surtout la durée, c'est ça qui l'intéressait. Et effectivement, cette interrogation, ben, il trouvait une réponse dans la philosophie. Et d'ailleurs, la poésie de l'instant, qui est en fait une des poésies de Jean Val, est une réponse en fait à cette interrogation-là. Et je crois que chez Bachelard aussi, c'est exactement la même chose. Et ce que tu disais est absolument juste, c'est qu'il pousse, j'allais dire jusqu'à son terme le plus ultime, la pensée de Bachelard, en essayant de montrer comment c'est le point de départ peut-être d'une réflexion qu'il faudrait approfondir, mais dans le domaine de la poésie aussi. Mais la poésie au sens de création.
Oui, bien sûr. Puisque en fait, même les textes très philosophiques d'Édouard Glissant, jusqu'au dernier où il assume pleinement, après avoir écrit des traités de poétique, où il assume le mot philosophie, hein, le dernier texte traité s'appelle « Philosophie de la relation », après « Poétique de la relation », « L'esthétique », etc. Donc il assume pleinement, mais évidemment, à côté de réflexions sur les concepts, il y a aussi des incursions très personnelles, des éléments biographiques, biographique aussi sur sa mère, même dans ce dernier texte. Donc il y a quand même aussi un usage du langage qui détourne la philosophie peut-être de certaines rhétoriques argumentatives. Et ça, dès le départ, comme tu le rappelais, dès son premier livre, Soleil de la conscience.
Oui, 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 mélange vraiment l'autobiographie, la poésie, l'essai, la réflexion sur l'ethnologie. Enfin, il y a une partie d'ailleurs de l'essai que j'aime bien relire. Pour moi, c'est le cours du poème. C'est deux pages en fait. Mais le cours du poème, c'est absolument génial. C'est magnifique. Tout y est dans ce cours du poème. En deux pages, il a tout dit. Mais vraiment de la philosophie du temps, de l'instant, enfin de l'ensemble des sujets. Et c'est déjà la poétique de la relation. Ouais. C'est déjà la philosophie de la relation.
Célia Mouzoun, Alyosha Mazouzi, est-ce que vous voulez réagir au propos de Roman?
Oui, enfin, évidemment, la relation entre la philosophie et la poétique est absolument centrale à toute la pensée de Glissant, n'est-ce pas? Je trouve intéressant qu'il a évité d'utiliser le mot philosophie avant, justement, philosophie de la relation, qui a été écrit enfin, pas très longtemps avant sa mort, n'est-ce pas? Et je crois que... Il y a quand même, on peut discerner quand même une sorte d'ambivalence envers la pensée philosophique. Je pense peut-être en particulier à son attitude envers Hegel, n'est-ce pas? Parce que chez Hegel, il y a beaucoup de choses qu'il rejette, hein, surtout le côté systématique, n'est-ce pas, de sa pensée, tout en s'intéressant à et adoptant même le côté plus dialectique de Hegel. Alors je pense que oui, évidemment, ça a été très important pour lui, mais ce n'est pas un simple emprunt, si vous voulez. Il y a toujours cette ambivalence.
D'ailleurs, juste une anecdote, mais je me souviens quand il avait présenté Philosophie de la relation, c'était rue Dieu, chez Agnès B. Et il y avait une résistance, il y avait certains poètes, je me souviens Antoine Rebaud, ça, qui disaient mais comment tu as dit philosophie, c'est pas possible d'employer ce mot philosophie, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait dire, bon, philosophie, c'est bien de dire philosophie de la relation. Moi. Et je disais, mais comment un poète peut entrer dans un discours ça, unifiant, universalisant, systématique, etc. Mais pourquoi tu as employé le mot philosophie? C'était presque un reproche, il devait se justifier. C'est très ambivalent.
Oui, mais moi, j'ai également le souvenir de cette scène-là. Oui. Et c'est vrai qu'en t'écoutant la rappeler, je me dis effectivement qu'il a bien fait de ne pas commencer par le mot philosophie. Mmh. Parce qu'il était un mot piège. Mmh. Or, tous les mots français, tous les mots de la langue française, je ne sais pas en anglais, mais tous les mots de la langue française qui sont utilisés par des descendants d'esclaves français, c'est-à-dire par ceux qui viennent des colonies françaises, tous ces mots-là sont piégés, en fait. Dès qu'on dit philosophie, pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure, bah, on peut dire philosophie bantou. Ah, là, ça pose des problèmes, et à bantou et à philosophie. Donc je comprends très bien qu'il n'ait pas utilisé le mot, et je comprends en même temps la critique qu'on lui faisait à l'époque. Donc il fallait qu'il soit un tout petit peu, mais ça, il n'a pas besoin d'aide pour cela, qu'il soit un peu fou, pour pouvoir justement s'aventurer sur des terrains qui sont vraiment glissants. Si je peux jouer sur les mots.
Ok. Alyosha, une petite réaction.
Oui, mais tout ce qui a été dit est très juste. Effectivement, ça part d'un point de vue philosophique, d'une certaine critique de la dialectique et d'un écart constaté entre le sujet et la chose et d'une réflexion sur le monde à partir effectivement d'une démarche philosophique qui d'une certaine façon était déjà mise en questionnement par Jean Val, par la cosmogonie de Bachelard, toute cette réflexion sur le rôle de la poétique déjà comme étant au fond l'avant-garde de la pensée. Donc il y avait un voilà, peut-être que la pensée finalement avait intégré la philosophie et l'emmenait ailleurs, parce que ce qui est intéressant et glissant, c'est que tous ces essais, toutes ces démarches sont des laboratoires créatifs, sont des lieux d'expérimentation, des lieux de rencontre. Donc la philosophie rencontre d'une certaine façon son autre, rencontre l'altérité, et effectivement Glissant va les porter ensuite à sa façon vers autre chose, il va les transformer. Et c'est comme ça qu'il va retrouver après effectivement avec les questions de l'instant, de l'étendue, parce que Jean Val qui était, Romuald Fonclau a bien montré, qui est lui, Jean Val spécialiste de Kierkegaard, de Nietzsche, etc. Donc déjà d'un rapport critique à la philosophie hegelienne ou platonicienne, etc. Et donc effectivement à ce moment-là, Glissant va s'insérer dans ce sillon, va développer ses propres concepts et va retrouver ses interrogations, lui, sur le déracinement, sur l'identité, sur l'histoire et son histoire aussi, dans cette question aussi du temps, telle que la philosophie l'a présentée et les débats qui ont été amenés ensuite à partir de ces questions.
Tout à fait. Merci. Alors, Célia, est-ce que vous voulez bien nous dire un mot sur, et aussi peut-être nous apporter un éclairage sur, je dirais, glissant hors de, du monde francophone.
D'accord. Merci François, et merci aussi de m'avoir invité ici ce soir. Et c'est toujours un plaisir de parler de glissant, mais peut-être surtout ici à Paris. Bon, je dirais, enfin, je vais commencer par le plus évident, n'est-ce pas, c'est-à-dire la relation qui, comme vous le savez, qui oppose tout à la fois l'isolement et l'homogénéité, si on peut dire, et qui ainsi se trouve au centre de tout un réseau de concepts comme la créolisation, le tout-monde, l'opacité, la digenèse, etc., etc. Et je crois que, pour moi, personnellement, ce qui est le plus important dans ce réseau d'idées, c'est la transformation qu'il donne à l'idée traditionnelle de l'identité. Et c'est frappant, parce que pendant cette période, disons dans les années 90, n'est-ce pas, où Glissant a élaboré cette pensée, la plupart des penseurs contemporains ont complètement rejeté le concept de l'identité. Même Deleuze, par exemple, dont la pensée par ailleurs est très proche de celle de Glissant. Mais pour Deleuze, l'identité est une illusion. Lacan et les structuralistes, les post-structuralistes, on pourrait dire la même chose. Et je pense que c'est une partie de l'énorme originalité de Glissant d'avoir non pas rejeté l'identité, mais de l'avoir vraiment transformée en faisant cette distinction entre l'identité racine et l'identité relation ou identité rhizome. Et pour moi, justement, cela a ouvert des perspectives nouvelles qui me semblent tout à fait fructueuses, n'est-ce pas ? J'aimerais dire aussi, puisque je suis linguiste, n'est-ce pas, pour moi, ces pensées sur la langue et le langage ont été d'une très grande importance. Je ne connais aucun théoricien linguiste de la linguistique, n'est-ce pas, qui ait pu exposer avec autant de subtilité ce concept du langage. Le langage, ce n'est pas tout simplement une variété de la langue, une variété du français ou de l'anglais ou quoi que ce soit, mais cela représente toute une attitude subjective envers la langue qu'on parle, et souvent envers la langue qu'on est obligé, par des circonstances coloniales, à parler, n'est-ce pas ? Donc, beaucoup d'écrivains postcoloniaux ont exprimé ce même sentiment. Si je peux citer en anglais, il y a un Indien, par exemple, qui dit « to be condemned to use the words that do not fit the feelings one has » et tout ça. Et je crois que c'est le langage qui lui permet d'élaborer cette perspective que j'appellerais politique sur les questions de langue et de langage. Et c'était justement l'idée centrale de mon premier livre sur Glissant, n'est-ce pas ? Parce que je crois que cela permet de voir jusqu'à quel point la pression culturelle peut influer sur les coloniaux, les post-coloniaux, mais aussi donner un moyen de combattre, n'est-ce pas, d'attaquer cela. Alors c'est pour cela que je crois que ce sont ces deux thèmes de l'identité et le langage qui pour moi représentent peut-être, enfin je dirais pas les plus importants, mais de toute façon un côté qui pour moi est absolument capital de ces écrits.
Est-ce qu'on pourrait peut-être préciser, parce que tout le monde n'a pas forcément lu Glissant dans la salle, ce qu'il entend par identité-relation, mm-hmm. quand il l'oppose à identité-racine, mm-hmm.
Est-ce que... Oui. Enfin, l'identité-racine s'appelle aussi l'identité-rhizome, n'est-ce pas ? Ça, c'est un terme qu'il a pris de Deleuze et Guattari. Le rhizome est aussi une racine, mais c'est une racine multiple, et c'est une racine qui, comme dit Glisson, ne tue pas autour d'elle. Alors l'identité racine, c'est l'identité humaniste traditionnelle qui refuse l'altérité, enfin qui essaie de se couper de tout ce qui est différent, tandis que l'identité rhizome existe seulement dans la mesure où elle fait des liens avec ce qui est à l'alentour. Donc mon identité n'est plus quelque chose que je garde jalousement au-dedans de moi. C'est le résultat plus ou moins accidentel, n'est-ce pas, de tous mes contacts avec les autres, contacts négatifs et positifs. Et ça veut dire aussi que mon identité change tout le temps, n'est-ce pas?
Et un mot peut-être sur justement relation, puisque vous avez commencé par là. Édouard Glisson emploie de nombreux mots, invente des figures. Là. Mais relation, c'est avec un R majuscule.
Oui. Hein
alors, est-ce que vous pourriez, est-ce que c'est finalement le concept clé, comme ça, comme on dit aussi des fois, voilà, le chef moteur, ce à partir de quoi tout s'organise? Pourquoi? Parce qu'il arrive assez tôt, hein, on le trouve dans les Indes, ce mot de relation. Mmh. Est-ce que c'est toujours le même de quand on est en 56 et puis quand on est dans les années 2000? Non, est-ce qu'il a changé ce mot? Et quand même, c'est frappant, lui qui a peut-être une résistance par rapport au concept hegelien, c'est quand même relation R majuscule. Hein.
Alors, oui. Remarquez, le tout le monde a aussi un majuscule,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai.
Mais oui, enfin, vous avez sûrement raison, et je pense que justement, la relation, quand il commence à l'élaborer, je pense peut-être au discours entier, là, l'accent est mis sur l'égalité, n'est-ce pas? C'est la relation comme une sorte de moyen de combattre l'inégalité. Et ce n'est que plus tard qu'il le développe dans son ampleur, enfin, pour en faire quelque chose de beaucoup plus complexe.
Oui, oui, oui. Et il y a cette idée philosophique assez complexe, effectivement, que les identités n'existent pas a priori, mais que c'est la relation qui va façonner des identités, va créer les identités. C'est-à-dire, au lieu de partir des identités, on se dit, de comme on dit en philosophie, l'intersubjectivité, bon, voilà, il y a A, il y a B, comment on met en relation A et B? Ben non, là, c'est penser d'abord le mouvement, et puis après, on pourra penser à un A et un A', ou un B', etc. Donc, là, c'est quand même une idée très, très complexe, qui est une idée, effectivement, du devenir des identités. Au fond, les identités, comme vous le disiez, ne sont pas fixes. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'a dit Célia Alyosha?
Oui, c'est très juste. Ça veut dire que d'une certaine façon, le processus, le devenir, la transformation sont des schèmes opérants qui vont ensuite se concrétiser, se matérialiser, s'arrêter, s'instantanéiser pendant un moment. Mais en tout cas, c'est vrai que penser la relation est forcément aussi une philosophie elle-même rhizomatique, nomade, qui va essayer de prendre des formes différentes, qui va aussi se... Voilà, donc c'est aussi l'idée que philosophiquement que développe Glisson, c'est-à-dire que face à l'un, face à l'universel, face à des concepts philosophiques qui ont comme objectif de rationaliser le monde, de maîtriser le monde, de le rendre à l'échelle humaine, Glisson va avoir au contraire un regard de distance très complexe par rapport à ça. Hein, comme il le dit, rien n'est vrai, tout est vivant. C'est-à-dire que le processus du devenir est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important que des vérités définitives. Donc il va y avoir effectivement tout un dialogue, une réflexion qu'il va développer sur ce plan-là. Donc philosophiquement, ça a beaucoup d'effets, de conséquences, et ça va aussi être développé dans ses travaux anthropologiques ou sociologiques, historiques, poétiques, etc. Le vers en prose l'intéresse davantage lorsque, voilà, dans la poésie, il y a du processus, il y a du mouvement, il y a de la transformation. Donc ça touche beaucoup de domaines. Effectivement, la linguistique aussi, la langue, est un des lieux aussi où ça se transforme.
Je dirais simplement que cette formule « rien n'est vrai, tout est vivant », et ce n'est pas simple, n'est-ce pas? C'est assez problématique comme énonciation.
Oui, c'est un autre sujet, effectivement, mais le fait que ça ne soit peut-être pas strictement une pensée humaniste, mais qui envisage la relation, mais entre tous les êtres vivants, Il y a une sorte de, aussi de cosmologie peut-être qui se développe. Et peut-être aussi, parce que sous la question que je vous posais, est-ce que le mot relation a le même sens donc dans les années 50 et dans les années 2000 quelle est l'évolution? Et est-ce que justement il y a une extension de ce mot pour englober tous les êtres, tous les éléments de la nature? Est-ce que vous pourriez dire un mot justement de cette extension du mot relation?
Moi.
Oui, c'est vous qui avez lancé le mot de relation.
Oui, enfin, je croyais qu'on en avait déjà parlé un peu. Oui, non, évidemment, c'est quelque chose qui... enfin, c'est comme une racine, c'est comme un rhizome lui-même qui pousse, n'est-ce pas, et qui s'étend dans toutes sortes d'airs différents. Je pense quand même que l'idée de base, si on peut dire, reste... La même, n'est-ce pas? C'est cette sorte de... Et on peut dire que c'est très simple aussi. Enfin, évidemment, c'est très compliqué, mais c'est très simple aussi. C'est cette idée qu'on peut être ensemble avec les autres tout en restant différent. Voilà. Donc, ça a un côté antiraciste, bien sûr, et bien d'autres choses.
Romuald, pourquoi c'est si important la relation? Pourquoi c'est si important de penser le lien, de relier, relater? On sait qu'il joue beaucoup avec ces étymologies. Mais
c'est vrai qu'il a une formule, je crois que ça doit être dans Poétique de la relation. Il a une formule qui, en fait, est à un certain moment donné l'aboutissement de ce que je vais appeler ces hésitations notionnelles ou bien ces hésitations conceptuelles. Pour parler de la relation, il dit la relation, c'est le relaté et c'est le relatif. Et à mon avis, il touche là quelque chose qui est assez juste, à savoir que si c'est relatif, ça veut donc dire qu'on peut recommencer. Ça veut donc dire que rien n'est figé et qu'en fait tout est changeant. On peut être aujourd'hui colonisé et colonisateur demain. Ça, c'est arrivé. Je ne cite personne. On peut être dominé aujourd'hui et dominant demain. On peut être blanc et noir demain. Donc, ces changements-là sont des changements qui entrent précisément dans cette sorte de relatif. Mais il y a également l'autre notion, je crois, qui renvoie au langage, qui a été évoquée tout à l'heure, c'est que le langage n'est rien s'il n'est ni dit, ni pensé, ni entendu. Et donc, c'est ça, en fait, le relaté. Pour que le relaté soit, il faudrait qu'on puisse relater. Ça, c'est peut-être tautologique ce que je suis en train de dire, mais avec licence, ce n'est pas de trop. Pour relater, il faudrait raconter. Il faudrait avoir la capacité de raconter. Il faudrait avoir la liberté de raconter. Il faudrait avoir les moyens de raconter. Il faudrait avoir quelqu'un qui, justement, écoute. Et c'est peut-être là tout l'intérêt qu'il a eu, par exemple, pour les créolisations aussi. Et je pense que cette notion de relation tient précisément aux conditions de possibilité du discours, aux conditions de possibilité du dire. Et un autre terme aussi qui est sans doute lié à ce qui est à la relation, c'est la notion de tremblement. C'est-à-dire qu'au fond, on n'est jamais certain de ce que l'on avance, parce qu'on ne peut que tâtonner, au fond. Et les relations sont d'abord et avant tout des instances ou des instants de tâtonnement. On essaie un peu, ça marche peut-être, ça marche peut-être pas. Enfin, bon, on essaie de voir si ça peut marcher. Et si on le fait sans qu'il y ait de grandes déflagrations, c'est bien. Mais on le fait souvent avec de grandes déflagrations, malheureusement. Mais donc, non, il faudrait se prémunir contre cela. Moi, je pense que la notion de tremblement est une notion qui est intéressante aussi. Oui.
Pour revenir juste sur ce que vous disiez, là, sur la question de tout relier, il y a aussi l'idée que, non pas d'une totalité, parce qu'on Absolument. Pense toujours au tout le monde en termes de totalité, mais c'est plus effectivement en termes de distribution, de relations, c'est le fait que chaque élément le plus infime ne doit pas être oublié. Par exemple, une langue qui n'est plus parlée, il faut parler en présence de toutes les langues du monde, c'est une de ces formules, c'est que, au fond, voilà, c'est aussi peut-être l'idée de celui qui appartient à un petit pays, et que le petit pays peut être aussi donner des modèles, des paradigmes, et que, voilà, il faut relier jusqu'au plus infime détail du monde. Hein, le moindre détail compte. Et alors là, pour le coup, c'est pas forcément égalien, il ne faut pas chercher la synthèse, c'est apprécier justement chaque différence pour elle-même. Mais en même temps, la relier au reste du monde, non pas l'isoler au sens d'une île, mais voilà, là, on viendrait peut-être à la notion d'archipel. Ouais.
Oui. Non, ce qui est complexe, c'est que la relation renvoie aussi à la fois à des éléments d'histoire comme à des éléments de géographie, par exemple, puisque la relation peut se faire justement sur le modèle de l'archipel, qui n'est pas justement un modèle en fait, en réalité, mais justement, parce que ce n'est pas normalisant, c'est jamais réapplicable, c'est à chaque fois unique et singulier. Mais finalement, la relation peut se faire, par exemple, entre les îles et les continents, et donc la relation doit aussi tenir compte de la violence de la relation, qui peut aussi se faire justement dans l'histoire ou dans la géographie, dans les dominations, et donc qu'effectivement il y a des relations très diverses finalement. Mais c'est ça l'enjeu, c'est que la relation, par sa fragilité, par son tremblement, par sa singularité, permet de penser le divers au plus près, au plus proche. Et ça, c'est justement toute l'intuition philosophique, c'est-à-dire c'est l'intuition d'abord et la philosophie qui l'accompagne, mais un geste intuitif d'arriver à saisir le divers sans le généraliser, sans le totaliser, sans l'enfermer, en laissant toujours ouvert le processus de transformation. La question étant effectivement comment peut-on saisir quelque chose sans justement l'enfermer ou l'isoler ou le dominer, mais toujours le questionner. C'est ça qui est important. C'est que la relation est autant une expérience, et c'est une expérience de découverte, de fréquentation, mais aussi de questionnement. Et questionner, voilà, c'est aussi ça, ce geste-là, qui est très fort dans la pensée du devoir glissant, que finalement le questionnement, l'interrogation, qui peut être dans la vie se manifester par la curiosité, par l'intérêt pour d'autres cultures, par toujours cette générosité, qui est d'ailleurs dans le titre de votre livre, L'identité généreuse, c'est justement ça, la relation. C'est cette question aussi d'ouverture à l'autre, et qui fait qu'elle permet justement d'aborder l'autre sans le saisir non plus tout à fait. Parce que dans l'idée de tremblement, il y a aussi cette idée finalement très importante chez Glissant d'opacité, c'est-à-dire que dans la rencontre, dans la relation, dans la fréquentation, il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. Il y a quelque chose qui nous laisse toujours interrogatif. Et le chemin poétique va aussi s'inscrire dans cette interrogation au fond. Vers quoi elle va nous porter? Quel chemin elle va nous tracer? Et ça, c'est très... très intéressant pour penser aussi la liberté d'une certaine façon dans la pensée de Glissant.
Merci. Est-ce que vous voulez réagir ou bien on laisse Alyosha dans le fil de son discours et nous parler peut-être donc du nomadisme, un terme qu'on trouve aussi chez Deleuze, hein, cette philosophie nomade. Et on sait que vous l'avez rappelé, la grande proximité de Glissant et de Deleuze. Je crois que Deleuze disait dans une lettre à Glissant, tu penses en poésie ce que moi je pense en philosophie, ouais. Hein, parce qu'il y a des pensées par poésie, voilà. Et il y a cette proximité reconnue entre deux sur les notions, vous le rappeliez, de rhizome. Alors, en quoi cette pensée du nomadisme aussi est-elle, et je crois que il y a un mot qu'il faut dont on parle, c'est le mot de créolisation, bien sûr. Hein. Alors, Alyosha Walezowski.
Oui, effectivement, la créolisation, elle se trouve définie par ce geste qui est que, effectivement, contre l'enracinement, contre l'enfermement dans une racine, bah, justement, le texte poétique de la relation développe une philosophie nomade de la trace qui s'inscrit dans l'idée de rhizome, justement, dont on a parlé, qui illustre bien, justement, à la fois les ouvertures, mais aussi les drames, les violences de la relation. Alors, le rhizome n'est pas effectivement l'absence de racine, mais une autre, une racine d'un genre particulier, une sorte de racine entraidante, ou en tout cas ouverte, qui fait que les différents thèmes de Glissant, opacité, créolisation, chaos, vont s'y rejoindre. Alors, c'est justement dans cette proximité, dans ce dialogue avec Gilles Deleuze et Félix Guattari, que Glissant va reprendre cette image du rhizome, va développer cette idée d'une racine multiple, et qui qualifie finalement une sorte d'identité plurielle, d'identité relation, d'identité ouverte qui s'oppose effectivement à l'identité racine, et qui donne l'idée d'une identité en devenir justement au cœur de cultures composites par cette mise en réseau. Alors, Poétique de la relation, c'est un texte effectivement qui justement là aussi va réfléchir sur la forme et sur l'écriture aussi en fragments, ou en tout cas en texte, parce que c'est 26 textes en fait qui sont réunis par Glissant écrits entre 1981 et 89, et qui justement invitent à penser l'unité-diversité des cultures. Et donc, il faut effectivement arriver à développer une pensée rhizome, une pensée nomade, pour tenir compte justement des déplacements, des modifications, des ramifications des cultures. C'est un peu ça l'idée centrale. Et la réponse de Glissant, je le cite, « La pensée du rhizome serait au principe de ce que j'appelle une poétique de la relation, selon laquelle toute identité s'étend dans un rapport à l'autre. » Et donc c'est une, évidemment une position philosophique très 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 intéressante. Et alors dans cette idée de poétique de la relation, Glissant va développer la figure de l'errant ou la figure du nomade ou de l'exilé, mais de manière très très précise, parce que il y a la pensée du relatif, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui va être incarnée par l'errant. Mais il y a différentes expériences du nomadisme. Ça, c'est très intéressant. Il y a des nomadismes en flèche, des nomadismes circulaires, des nomadismes intérieurs, des nomadismes immobiles, qui placent l'errant au cœur, justement, de la poétique de la relation. Et je cite Glissant, « L'errant n'est plus le voyageur, ni le découvreur, ni le conquérant. Et s'il cherche à connaître la totalité du monde, il sait déjà qu'il ne l'accomplira jamais. Et en cela réside la beauté menacée du monde. » Donc justement, notre modernité, notre actualité, le monde contemporain, justement, est issu de ces circulations, de ces mises en relation, de ces dynamismes pluriels. Et Glissant, dans son texte, va donner plusieurs exemples très différents de nomadisme. Nomadisme de peuple, par exemple, qui se déplace d'île en île, mais aussi l'errance du troubadour, qui renvoie aussi à son intérêt pour la poétique médiévale, du Moyen-Âge. Le trajet déraciné de Frantz Fanon, de Martinique en Algérie. L'œuvre aussi tragique de Faulkner, ou la pensée erratique de Saint John Perse. Donc on touche là aussi, l'idée de rhizome, c'est de permettre de penser une autre identité, mais une ouverture sur le monde, non plus en profondeur ou en transcendance, mais en étendue, qui est aussi une idée très intéressante, l'étendue, c'est-à-dire qu'il faut essayer justement d'espacer, d'ouvrir et de donner des places à des pensées nomades qui vont enrichir la pensée. Disons par exemple les clartés platoniciennes, il faut les accompagner des légendes homériques. C'est la leçon ici de Glissant. À la dialectique hegélienne, on doit lui opposer aussi le passage aux opacités du griot africain. Il y a d'autres cultures qui vont rentrer effectivement en relation. Donc cette poétique du multilinguisme, multilingue, c'est un effort des imaginaires pour tendre vers l'infini baroque, en tout cas, qui n'est plus enraciné, mais qui est justement ouvert. Et c'est le champ littéraire aussi qui va s'aventurer vers le rhizome ou par le rhizome. Ainsi, par exemple, Glissant propose une relecture de l'aventure de la comédie féerique de La Tempête de Shakespeare, où justement les vers vont se mêler de prose. Et donc, parce que Glissant disait aussi qu'il fallait, redécouvrir l'épique et le tragique. Et donc, voilà le point commun entre Deleuze, Glissant et Guattari, c'est ce devenir monde anti-généalogique qui fragmente les filiations par l'alliance, dirait Deleuze et Guattari, ou par la relation dit Glissant. Donc le rhizome, c'est ni l'un ni le multiple, mais c'est plutôt la multiplicité des liaisons pour aborder la vie sous un angle de plateau multiple, pour reprendre le titre de Deleuze et Guattari, les mille plateaux. Et ça permet de déranger effectivement la polarité trop binaire, trop figée, et la centralité continentale.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait dire que la créolisation, c'est une pensée d'avenir, ou est-ce qu'il y a toujours eu de la créolisation? Il y a un livre de Glissant qui s'appelle « Une nouvelle région du monde ». Bon, région, c'est à la fois un espace, mais c'est aussi une direction, même si évidemment, il n'était pas question de dire « on y va tous ». Bon, mais quand même, est-ce que vous pourriez dire un mot de la créolisation aujourd'hui et du coup de la place de la pensée de Glissant dans à la fois la pensée contemporaine, mais aussi dans les phénomènes culturels contemporains? Est-ce que cette idée de créolisation, comment la prendre autrement que par un métissage? Parce qu'on sait très bien que justement, il voulait éliminer cette idée du strict mélange du métissage qui aboutit à quelque chose de prévisible. Mais il a essayé de développer une pensée, une philosophie du devenir et de l'imprévisible, quoi. Alors, est-ce que vous pourriez dire un mot je dirais, la créolisation maintenant ou la créolisation à venir, et comment c'est reçu, par exemple? Est-ce que, Célia, est-ce que vous pouvez nous dire comment, si cette idée, est-ce qu'on dit creolisation, par exemple, est-ce que ça a un répondant aujourd'hui dans les phénomènes multiculturels ou interculturels et auprès de penseurs qui ont beaucoup de succès, par exemple des penseurs anglophones qu'on étudie dans les postcolonial studies ici, Omi Baba, etc. Voilà, bon, ou Bolgin Roy, etc. Enfin, bref, il y a toute une littérature importante pour nous. Mais au fond, quelle est la résonance de Glissant par rapport au mot de créolisation dans la pensée contemporaine?
Je pense que chez Glissant, enfin, il y a certainement une dimension historique à la créolisation. Oui. Enfin, c'est un événement, une série d'événements qui est déjà arrivé, n'est-ce pas, mais qui n'existait pas, disons, il y a deux siècles. Enfin, pas à l'échelle qu'elle a maintenant, n'est-ce pas. La distinction qu'il fait entre culture atavique et culture composite reste entièrement sur cette notion de créolisation. Oui.
Vous pourriez peut-être préciser culture atavique, culture composite.
Ben, la culture atavique, c'est la culture qui procède d'une genèse plutôt qu'une digenèse. Donc, les sociétés occidentales traditionnelles, pour la plupart, mais pas uniquement. Enfin, il parle aussi de la Chine, de l'Inde et tout ça comme ça. Tandis que les cultures composites sont justement celles qui sont basées sur un mélange de peuples, un mélange de langues et tout ça. Donc qui se trouvent surtout dans les pays non seulement colonisés, mais les pays qui ont connu la traite. Parce que justement c'est la traite des Africains, des esclaves de l'Afrique jusqu'aux États-Unis et la Caraïbe, qui a produit la plupart de ces sociétés composites. Pas entièrement, il y en a aussi dans l'océan Indien, mais pour la plupart. Et ce que vous avez dit par rapport aux penseurs postcoloniaux anglophones, oui, je crois que Glissant est un peu injuste envers la Jamaïque et le Trinidad, par exemple. Il dit carrément que la langue créole n'existe pas à la Jamaïque. Eh bien, c'est complètement faux. C'est là absolument... Enfin, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il a pris comme exemple de rappers qui sont à Londres. Enfin, eux, évidemment, ils ne parlent pas le créole. Mais à la Jamaïque, on parle bien le créole. Et je crois que, bien sûr, il y a des gens comme Brathwaite, n'est-ce pas, et Lamming, qui se sont intéressés de ces questions de culture mélangée, de langage mélangé, mais qui, pour la plupart, ne les intègrent pas dans une pensée philosophique, puisqu'on a utilisé ce mot, plus complexe. Je pense que c'est comme, il y a quand même quelque chose de plus concret, de plus sociologique ou... ethnographique peut-être aussi.
Mais est-ce qu'on pourrait pas dire...
Ça, c'est l'esprit britannique.
Oui. Est-ce que quand on regarde le monde qui vient, on ne peut pas douter de la créolisation en cours, parce qu'on peut se dire, au fond, il n'y a que des replis identitaires, des nationalismes qui reviennent, la contestation des modèles fédéraux, etc. Et donc on peut se dire, mais alors, je me souviens que Glissant avait toujours tendance à dire, mais c'est justement, c'est un phénomène de résistance, c'est parce que de toute façon, ça va exploser, et donc les gens se replient parce qu'ils ont peur. Voilà. Mais bon, que penser de l'avenir de cette notion de créolisation?
Je veux peut-être reprendre une conversation qu'on a eue en privé avec Édouard Glissant, place de la Sorbonne, il y a quelques années, sur ce sujet-là précisément. Il disait, oui, c'est des phénomènes de résistance à la créolisation qui est dans le monde. Oui, ce jour-là, on était gentils. On n'a pas voulu aller dans la confrontation, mais avec lui, parce qu'on aimait bien la discussion d'idées. Mais j'aurais tendance à dire, c'est pas la résistance dans la créolisation, en le suivant. C'est que même ceux qui résistent aujourd'hui résistent en se créolisant.
Oui.
Si on regarde exactement, j'allais dire, les phénomènes qui sont des phénomènes dits de résistance, ce ne sont plus exactement les phénomènes d'aujourd'hui qui sont semblables aux phénomènes d'hier. Ils se sont transformés. Alors, je vais faire mon grincheux habituel. Regardez le Front National en France. Oui, c'est créolisé. Si vous comparez le père et le fils... Pardon, le père et la fille. ils se sont créolisés. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'est plus la grande résistance des années 30-40. Ça n'est plus le monde est divisé en deux, c'est des Blancs et des Noirs. Ça n'est plus le monde est divisé en deux, c'est l'Afrique et l'Europe. Non, ils se sont créolisés aussi. C'est-à-dire qu'au fond, la créolisation est en train, j'allais dire, de s'embarquer un peu partout.
D'accord, tu vas leur expliquer, tu vas faire un petit mot pour leur expliquer qu'ils sont créolisés.
Mais justement, je le disais, c'est à peine une boutade, c'est parce que j'ai lu ce matin que l'ancien président du Front National était interdit d'accès à la salle de son propre parti. Pourquoi ? Parce qu'un secrétaire général nouveau lui dit « vous ne pouvez pas venir ». Et qu'est-ce qu'il lui reproche ? Mais il lui reproche d'avoir tué l'ancien. Ça veut donc dire qu'en fait, il se rend bien compte que l'ancien n'est plus ancien, qu'il a perdu effectivement les forces de l'ancien et qu'il est en train de se transformer, précisément. Et je crois qu'en fait, un des avantages, je crois, de cette notion de créolisation, indépendamment de la question de la langue, de la culture, qu'on est en train d'évoquer à juste titre, c'est que le phénomène de créolisation touche jusqu'à y compris les phénomènes de résistance à la créolisation. Oui, oui. Et il me semble qu'il faudrait prendre cela en compte. Mais ce que je voulais dire de façon beaucoup plus sérieuse en dehors du Front National, quoique c'est sérieux aussi, c'est que moi, je pense que les phénomènes de créolisation sont des phénomènes qui ne peuvent exister que si l'on prend en compte leur origine, et ça a été rappelé tout à l'heure, c'est l'esclavage noir, qui ne ressemble pas du tout à l'esclavage antique. Et je crois que c'est le point de départ, il est là. C'est que la créolisation naît précisément des conditions qui sont celles de l'avènement des esclaves au monde. C'est des conditions qui ne ressemblent à rien au nomadisme ancien. C'est qu'il y a ici un lieu comme une sorte de forge qui, en fait, permet à des individus de s'entasser dans une cale de bateau, de faire le voyage sous la mer et de se retrouver dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas avant. Alors là, ça change absolument tout. Et je pense que tout ce qu'il disait déjà dans les Indes, c'est pour ça que je parle de l'esclavage, tout ce qu'il disait déjà dans les Indes se trouve, en fait, repensé après, reconceptualisé. Mais c'est précisément ça. Jusque j'ai compris, d'ailleurs, au début des Indes, quand il essaie d'opposer le griot africain en train d'évoquer ou pas le voyage des Africains et la manière par laquelle, en Europe, on a pensé en fait, la découverte du Nouveau Monde. Mais il y a là quelque chose qui est assez singulier, c'est que même le discours du griot est incapable de pouvoir penser l'épopée, est incapable de pouvoir penser alors une anti-épopée ou alors une anti-genèse. Donc en fait, l'anti, le dit, en fait, toutes ces notions-là qui pouvaient apparaître ici comme étant des notions critiques, en fait, sont les seules notions par lesquelles l'esclave est capable, lui, de penser le monde. Et c'est peut-être ce qui séparait en quelque sorte Deleuze et Guattari de Glissant, c'est que même s'ils étaient proches du point de vue de la pensée, et je suis à peu près certain qu'ils se comprenaient assez bien, il y avait quand même des conditions de production de la pensée qui n'étaient pas les mêmes. L'un vient d'une histoire qui est une histoire particulière que ne peut pas connaître Deleuze et Guattari malgré eux, j'allais dire, ou indépendamment d'eux. Et cette condition, qui est la condition justement de l'élaboration d'une pensée née de la cale du bateau, né dans le bateau, même la pensée de Deleuze, qui est pourtant une pensée contre et qui est une pensée importante, est une pensée qui ne saisit pas jusqu'au bout la pensée de Glissant. D'où la formule que Glissant utilise, que Deleuze utilise, mais il n'est pas le seul des philosophes français à l'utiliser, c'est Glissant pense en poète. Ah, c'est bien de penser en poète plutôt que de penser en philosophe. Comme ça, ça évite tout problème. Dans la poésie, personne ne discute. Bon, voilà, on peut inventer, on fait ce qu'on veut. Mais dans la philosophie, y a des cadres. il y a un protocole de pensée. Donc, dire Glissant pense en poète, c'est le mettre justement en un lieu qui est totalement indiscutable parce que ça ne peut pas être discuté. Dire il pense en philosophe, c'est commencer à poser des problèmes, non pas à Glissant, mais à la philosophie. Et je crois qu'en fait, c'est peut-être ça, finalement, le nœud du problème, je crois. Oui, oui.
Un dernier mot avant que peut-être on laisse la parole pour qu'on reçoive des questions si on a été un peu obscur. Il y a une phrase de Glissant qui dit, il le répète d'ailleurs plusieurs fois, la créolisation est sans morale. Et j'aimerais qu'on la commente parce que souvent il y a une sorte de vision peut-être un petit peu simpliste, de dire voilà, il faut que tout le monde se créolise, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on croit que c'est plutôt se mélanger, etc. Et en fait, comme si la créolisation c'était bien par rapport à le repli ou l'identité, c'est pas bien. Bon, et tout d'un coup, il y a cette phrase qui dit attention, la créolisation est sans morale. Est-ce que vous pourriez commenter cette phrase? Je ne sais pas, Alyosha.
Oui, c'est complexe. C'est effectivement l'idée que il n'y a pas forcément une sorte de décision aussi morale de transformer les choses. Hein. C'est plutôt l'idée que, malgré tout, il y a la mondialisation, par exemple, d'un côté, il y a l'uniformisation, il y a la standardisation, etc. Et que la créolisation est davantage de l'ordre à la fois d'une forme de résistance. Donc il y a aussi une politique de la relation. Ça c'est important de le dire, et en même temps c'est l'idée aussi que comme il y a une part d'imprévisible, d'inattendu, de non maîtrisable, effectivement, c'est là où c'est pas forcément la morale qui va donner son qui va avoir le dernier mot ou qui va saisir le processus, lui donner un sens, une cohérence, etc. Donc c'est vrai que ça dépasse un peu cette idée. C'est l'idée, au fond, on retrouve un peu ça dans l'opposition mondialisation mondialité, par exemple. C'est l'idée plutôt d'un monde en devenir. Et donc, à ce moment-là, qui n'est pas...
Quelle distinction fait-il entre mondialisation et mondialité ?
Dans ce cas-là, la mondialisation, c'est davantage effectivement une forme de standardisation, d'uniformisation, de globalisation, qui ne permet pas de penser la complexité, justement, entre le singulier et l'universel, entre le local et le global, entre le micro et le macro. Et la mondialité, c'est beaucoup plus ouvert comme type, effectivement, de processus. C'est davantage... une sorte d'accompagnement des bouleversements et des transformations, sans y voir forcément une leçon. Parce que c'est vrai que le problème, ça dépend de ce qu'on appelle morale, mais c'est forcément aussi comparer les situations et les mettre sous une forme de classement, de hiérarchie. Là, il y a aussi quelque chose qui laisse le processus ouvert, insaisissable.
Il n'y a pas de modèle de société créolisée, c'est un... Il n'y a pas des degrés de créolisation réussis ou pas, Célia ?
Oui, enfin, il n'y a pas que la créolisation qui ne soit pas morale. Il dit la même chose de la relation, oui, n'est-ce pas ? Et c'est devenu très important dans la réception états-unien, comme il dirait, de son œuvre, parce qu'il y a deux penseurs, deux académiques, deux universitaires, n'est-ce pas ? Qui disent très simplement, et c'est tout à fait simpliste, bien sûr, que jusqu'au discours entier, Clisson était quelqu'un de gauche, un homme de gauche, il était anticolonial, il était militant, etc., etc. À partir de la politique Deleuze. De la relation, etc.
Il a malheureusement rencontré Deleuze.
Oui, peut-être, mais enfin, qu'il a complètement perdu ce point de vue politique, et il accepte maintenant tout. Et je pense que ce qui a peut-être contribué à cette impression, d'ailleurs complètement fausse, c'est que le ton des écrits change tellement après le discours entier. On dirait que Clisson devient heureux, n'est-ce pas ? Et il y a une sorte d'énergie, de spontanéité qu'on ne trouvait pas avant, et qui a peut-être fait qu'il donne l'impression que, bon, maintenant, ça va, tout va bien. Mais pour un lecteur tout à fait superficiel,
oui,
bien sûr.
Je pense qu'il y a quand même des très beaux moments d'euphorie avant 81, mais en tout cas, il y a une espèce de rhétorique du discours antillais, justement peut-être hegeliano-marxiste, tend à se complexifier. Oui. Romuald.
Mais peut-être qu'il y a une explication à cela. Je dirais que jusqu'en 81, Clisson fait ses classes.
Oui.
Après 81, il a une thèse de doctorat. Bon, donc quand on a fini la thèse de doctorat, on fait ce qu'on veut.
Écoutez, le professeur de la Sorbonne.
On fait à peu près ce qu'on veut, on ne doit plus rien à personne. Les maîtres, on les salue parce qu'on les respecte, mais évidemment, on peut s'en passer. Et après, il est Clisson. Il y a cette explication-là. Mais je pense qu'il y en a une autre qui, sans doute, devrait être prise en compte si on regarde l'œuvre dans son ensemble. Dans l'ensemble de l'œuvre de Clisson, je crois qu'il manque un ouvrage. Et je l'ai toujours dit, c'est Politique de la relation.
Oui.
Ça, c'est Politique. Bon, il a écrit La beauté du monde. Ce serait des contributions justement à cet ouvrage, Politique de la relation, qui trace en fait l'ensemble de tout ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que si la relation n'est pas toujours morale, c'est que les créolisations ne sont pas toujours morales. Et j'allais dire à juste titre, il faut au-delà des créolisations et au-delà des relations, il faudrait une morale. Et cette morale-là, c'est peut-être la fameuse beauté du monde qu'il faudrait tenter de créer. C'est des relations qu'il faudrait toujours maintenir. Parce que si on laisse les choses aller de soi, les choses ne vont jamais de soi. La créolisation en soi n'est pas toujours bonne parce qu'il s'agit de créolisation. Il y a des créolisations qui ne sont pas bonnes du tout. Il y a même des créolisations qui sont absolument néfastes.
Bien sûr.
Césaire avait sur cette question-là à propos des Antilles une formule que je cite toujours parce que je l'adore. Il disait que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Pol Pot qu'il y a dans cette petite île. Imaginez un peu le nombre de créolisations négatives à la Martinique. Si on laisse la Martinique faire, la Martinique peut devenir justement une île qui est totalement ingouvernable demain. Donc il faudrait faire absolument attention. C'est vrai pour la Martinique, ben, j'espère que les Martiniquais me pardonneront, je ne suis pas en train de stigmatiser. La Martinique, c'est valable pour la France, c'est valable pour n'importe quel autre pays. Regardez les États-Unis, voilà, comme ça, tout ça, comme ça, ça ira très bien. Il faudrait toujours une morale, parce que si on ne tient pas la morale, alors effectivement, on ne peut pas tenir justement la relation entre les sujets, entre les êtres, entre les idées, enfin, les relations dans le monde. Et c'est cette idée justement qui peut-être fait croire qu'en gros, il a viré en fait, sa cutie de gauche pour devenir un bonhomme centre-droit, en essayant bien sûr, n'est-ce pas, que tout soit très beau dans le monde. Non, je crois qu'il va en âge, il a très bien compris que, en gros, pas que ça ne sert à rien, mais les pensées systématiques auxquelles il était rattaché avant le discours antillais, ces pensées systématiques peuvent être aussi dangereuses pour la beauté du monde que les pensées qui étaient considérées comme étant des pensées de droite, nuisibles. Moi, je pense que c'est aussi cette dimension de morale qu'il a voulu construire. Et il me semble qu'à la fin de son œuvre, tous les discours sur la beauté du monde tendent justement à défendre l'idée d'une morale qu'il faudrait absolument introduire dans les relations. Et on peut l'introduire qu'avec une politique. Et le manifeste justement de son discours sur l'esclavage, sur la mémoire des esclavages, cette attention à la mémoire contribue précisément à cette attention également aux politiques. Si, par exemple, en France, quand il s'est intéressé justement à la question de l'esclavage, si on ne fait pas attention justement à la mémoire des esclavages, ben on risque de créer des abcès de fixation dans les relations qui peuvent y exister entre des individus qui, constituant une nation qui s'appelle France, viennent justement de cultures qui sont des cultures différentes, d'histoires différentes. Et on l'a bien vu au milieu des années 90-2000. Je ne suis pas sûr que la question soit totalement résolue aujourd'hui. Il y a encore des abcès de fixation sur la question de l'esclavage en France.
Merci beaucoup. On voit qu'effectivement, là, le champ politique de Glissant est encore à venir. Je crois que c'est le temps de laisser la parole à ceux qui et celles qui voudraient poser des questions. Je crois qu'il y a il y a plusieurs mains qui se lèvent là. Est-ce que oui, il y a un micro qui peut. Désolé, le micro arrive d'abord et là-bas, mais ce sera à vous après.
Bonsoir et merci du coup pour ces quelques mots. Ma question va poser sur la philosophie de la relation, donc je la poserai aux philosophes. Je la poserai en deux temps. Un premier temps lié à ses origines et un second temps lié à ses peut-être expressions futures. Donc, dans son origine, la philosophie de la relation, vous avez tous les trois, avec Romuald Foucault, parlé du mémoire de Jean Val, d'Édouard Glissant sous la direction de Jean Val. Je voulais savoir si vous aviez pu le consulter et ce que vous en aviez retenu. De même que les cours de Jean Val sont disponibles à l'IMEC, les cours qu'Édouard Glissant a suivis. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous retenez de ce mémoire d'études où, en effet, la poétique et la philosophie de la relation se dessinent. Seconde question, liée à ses expressions futures. Édouard Glissant est mort il y a 7 ans. Ça fait donc plusieurs années que l'on parle de son œuvre, qu'on la présente, qu'on essaye de la commenter. Et j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans une sorte de concept dropping où on utilise les mots d'Édouard Glissant, mais sans trop aller dans l'analyse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette attitude-là et essayer d'aller plus profondément dans l'analyse ? Voilà, je vous remercie.
Bah écoutez, je crois en tout cas que vous avez de très beaux exemples de ceux qui savent effectivement développer et commenter les concepts ici. Et donc peut-être que sur Jean Val, peut-être Romuald qui avait vraiment merveilleusement écrit sur le rôle de Jean Val, pourrait nous donner son...
Pardon, Romuald Foucault a écrit sur Jean Val bien avant que les archives d'Édouard Glissant ne soient livrées à la BNF.
Mais écoutez, nous attendons, cher monsieur, votre commentaire vous-même sur cette archive.
Non, mais voilà, je trouve ça surprenant de commenter un texte en n'ayant qu'un titre. Voilà, je voulais simplement dire ça.
Non, mais vous qui avez eu un accès sans doute privilégié, vous en expliquerez dans un article, sans doute.
C'est toujours la même chose. Je crois qu'en fait, quand il y a des grands auteurs comme Glissant, il faudrait se dire que nous sommes tous placés devant ce que je veux appeler l'obligation de commentaires poursuivis. Moi, j'ai fait quelque chose sur Val à l'époque où je savais que le mémoire existait. Je ne l'avais pas lu. J'ai lu les travaux de Jean Val. C'est d'ailleurs de Jean Val que je suis parti pour comprendre Glisson. J'ai eu la chance de discuter avec Glisson au moment où j'avais fait cette communication que je n'avais pas encore publiée. C'est vrai que la discussion que j'ai eue avec lui m'a permis en fait d'aller travailler encore un peu plus pour terminer l'article. Mais je ne suis pas retourné en fait travailler sur Jean Val. Il me semble qu'aujourd'hui, ceux qui ont accès justement aux archives, ou ceux qui pourraient faire des mémoires là-dessus, puisque les archives sont disponibles à l'IMEC, il faudrait absolument le faire. C'est un travail qui est un travail absolument indispensable. On ne peut pas travailler sur quelqu'un qui a prôné l'ouverture dans sa pensée, en enfermant justement les archives. Non, il faut absolument les ouvrir, il faut absolument travailler là-dessus, je suis absolument d'accord. Je pense qu'il faudrait peut-être même créer ou initier une sorte de programme qui serait un programme général sur les travaux, qui sont justement les travaux d'Edouard Glisson, parce que ça permettrait en même temps, comme pour Saint John Perse, de pouvoir, dans les 3, 4, 5 ou 10 ans à venir, essayer de mettre à plat l'ensemble de cette pensée dont il me semble qu'on a à peu près traité le dixième, peut-être, hein, dans le meilleur des cas. Hein, on est à peu près arrivé au dixième. J'allais dire que c'est un peu normal en même temps, pour quelqu'un qui est décédé il y a 7 ans, que les archives, au fond, mettent un certain temps à sortir. C'est un peu normal. Quand on est dans le domaine de la littérature française, par exemple, et qu'on s'intéresse un tout petit peu aux archives, on voit le temps que ça met, justement, pour pouvoir traiter les archives. On voit le temps que ça met, par exemple, pour pouvoir publier des correspondances. La correspondance de Valérie Larbeau, par exemple, est une correspondance qui date de la fin du 19e, mais enfin, on a quand même le temps d'y arriver. Il me semble que la meilleure attitude que nous avons tous, et que nous pourrions avoir tous, c'est une attitude d'ouverture, mais vraiment, je le dis en plus de façon la plus calme possible, d'ouverture à toutes ces archives, d'ouverture à tous ces écrits, dont il me semble en plus que ce ne sont pas seulement, en ce qui concerne Glisson, mais c'est valable pour tous les auteurs, il ne s'agit pas simplement des archives de Glisson en tant que Glisson, il faudrait également s'intéresser aux archives de Deleuze qui parlent de Glisson, aux archives de César qui parlent de Glisson, aux archives de Ménil qui parlent de Glisson. Je pourrais multiplier ici en fait les archives, mais qui, au fond, permettent en quelque sorte d'accéder à ces travaux-là. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment, vraiment le faire. Je terminerai juste en un mot en disant que pour ceux qui travaillent sur Glisson, on a, j'allais dire, quand on n'a pas accès aux archives, on a quoi? On a les ouvrages, on commente les ouvrages qu'on a à notre disposition, et d'une certaine façon, il manque toujours un bout de la compréhension, ce qui est absolument normal, et il manque toujours quelque chose à notre compréhension. Mais notre travail à nous, c'est justement de faire l'archéologie, c'est d'aller chercher effectivement la manière par laquelle ces différentes notions-là se construisent, s'interpénètrent, voilà.
Bien sûr, archéologie, je crois que c'est un mot très important dans la pensée, pour comprendre une pensée. Monsieur ?
Oui, bonsoir. Vous avez beaucoup insisté et illustré la valeur philosophique de la pensée de l'écriture de Glisson. Je voulais juste rappeler que l'écriture et la pensée de Deleuze est aussi extrêmement poétique, très puissante en images poétiques. Et je voudrais en reprendre une sur laquelle il termine son abécédaire, cette image, cette lettre Z et cette image du zigzag. Vous posez une question autour de la différence, qui est un mot qui n'a pas été prononcé ce soir. Donc, à la lettre Z, Deleuze évoque dans son abécédaire ce zigzag qui fait le lien, non pas direct, mais justement en zigzag, entre deux potentiels, deux entités différentes. Et il insiste beaucoup pour dire que la relation, la vraie relation, est celle qui met en relation, non pas le même avec le même, mais le même avec l'autre, ce qu'il appelle le disparate. D'où ma question, est-ce qu'il est pertinent de s'interroger sur la différence entre une bonne et une mauvaise relation ? C'est-à-dire, y a-t-il une mauvaise relation, une relation qui va réduire la différence, homogénéiser l'hétérogène, à l'heure de l'Internet, des technologies qui ne cessent de mettre en relation les choses les unes avec les autres ? Pouvez-vous reprendre des notions d'Edouard Glisson pour essayer de comprendre s'il y a une mauvaise relation qui tend à une mondialisation et non pas à une mondialité?
Seulement, Glisson ne l'appellerait pas la relation. Enfin, je pense que pour lui, la relation est toujours quelque chose de positif. Il parle aussi de ce qu'il appelle, par exemple, la télévision des choses. Enfin, il, dans les écrits comme... par exemple. Enfin, surtout peut-être dans ses interviews avec Lise Gauvin, dans Imaginaire des Lauriers, il parle beaucoup de cette médiatisation de notre société, qui, bien sûr, a des côtés positifs. Enfin, il l'a vraiment accueilli dans la mesure où ça permet aux combats, aux luttes qui, auparavant, n'étaient connues par personne. Enfin, il dit que tous les petits peuples peuvent maintenant monter sur la scène du monde. Mais je crois qu'il est très conscient aussi de la façon dont les journaux, les émissions de télévision, etc., aplatissent les choses, enfin simplifient les choses et donnent une représentation très idéologique de notre réalité. Je ne sais pas si c'est une réponse à votre question, mais enfin...
Si je peux me permettre, enfin, je crois qu'en fait, pour parler de mauvaises relations, ce n'est pas de la relation elle-même qu'il faudrait parler, c'est du point de vue de la relation. C'est le point de vue à partir duquel on regarde la relation. Et c'est parce que je pense ici, en vous écoutant, au texte de Ségalène, qui a énormément inspiré Glissant dans son ouvrage consacré justement à la diversité. C'est quoi en fait le problème de Ségalène ? C'est qu'en fait, il s'aperçoit quand il va en Chine que ce qui va lui poser problème, ce n'est pas la présence de la petite fille chinoise, c'est le regard que la petite fille chinoise lui porte qui lui permet de comprendre qu'il n'est pas à sa place. Or, justement, il y a là une relation, effectivement, qui s'établit. J'allais dire normalement. De toute façon, il ne peut rien. Il est là. Il est arrivé, il est en train de voyager à Tianjin. Mais sa seule présence là est une présence qui fait qu'il n'arrive pas à comprendre que la petite fille, elle aussi, peut se poser la question de savoir qu'est-ce que lui, il fait là. Alors, c'est là, en fait, le point de vue de la relation. Le point de vue de la mauvaise relation, c'est celui où lui ne comprend pas que la petite fille puisse avoir, elle aussi, un point de vue sur la relation. Je ne sais pas si je me fais comprendre sur la question de la relation. C'est ça, en fait, la mauvaise relation. Et si on rajoute à cela la dimension morale qu'on évoquait tout à l'heure, il y a bien une prise de conscience, un surplus qu'il faudrait en fait avoir pour pouvoir justement toujours ne pas perdre de vue le fait que dans la relation, il faudrait toujours éviter une domination. Or, il y a toujours un point de vue de dominer dans une relation qu'il faudrait éviter en fait.
L'important reste toujours les différences. Hein, je crois que ça, c'est clair. Et dans aucun souci d'homogénéisation. Ouais. D'autres questions ou demandes d'éclaircissement? Ou on reste dans l'opacité? Il y a une question là, au milieu, et une question devant.
Merci. Ma question, c'était par... Tout à l'heure, un des membres de l'Assemblée a parlé d'un Indien. J'aurais voulu savoir qui était l'Indien.
C'est Célia, sans doute.
Excusez-moi, je n'ai pas entendu.
Vous avez parlé d'un Indien tout à l'heure. J'aurais voulu savoir qui était cet Indien.
Il s'appelle Raja Rao.
Mais peut-être tu peux peut-être vous pouvez expliquer la référence, peut-être.
Oh, ouais. Je ne me souviens plus. J'ai oublié le titre, excusez-moi, du texte.
Oui, mais peut-être préciser que c'est dans la référence postcoloniale, c'est ça ?
Oui, oui, hein, c'est ça. Oui.
C'est ça, hein, donc...
Sur la langue.
Oui, sur la langue. Hein,
oui. 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 Sur cette sorte de décalage qu'ils trouvent d'avec la langue qu'ils sont obligés d'utiliser.
Mm-hmm. Oui. Peut-être voulez-vous en réentendre la phrase qui avait été prononcée en anglais ? Non, ça va, elle a été entendue. Il y avait, je crois, une question de monsieur devant.
Je voulais poser la question à Romuald Foncois à propos des dangers de réduire Glissant à une lettre de l'abécédaire de Deleuze. Au lieu de l'ouvrir, les dangers qu'on peut percevoir qu'il y a dans des discussions, spécialement en France, au lieu de l'ouvrir à les rencontres avec des autres expressions, des autres cultures, comme on voyage, l'énergie de Glissant au-delà des discussions parisiennes, Et quels sont les résultats de l'influence de Glisson que vous a rencontré les plus touchants, quelles sont les civilisations que a vous touché les plus de les paysages internationaux que vous avez rencontré ou que vous avez entendu parler, comment Glisson a fonctionné en relation, quelle nouvelle identité sont surgit de ces rencontres entre l'énergie, les idées glissantes et les paysages internationaux.
Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Sinon, il y a beaucoup de questions là-dedans. Alors, premièrement, est-ce que la question, c'est quelles sont les différentes pensées internationales avec lesquelles Glisson a cheminé, ou bien quelles sont les différentes conséquences sur le plan international de la pensée de Glisson?
Plutôt les conséquences. Et les plus intéressantes. Les conséquences les plus intéressantes que vous pouvez nommer, en parler un peu pour finir un peu.
C'est pas évident. Alors, je dirais que en fait la dimension qui est sans doute de mon point de vue la plus internationale de l'œuvre de Glisson, c'est son rapport à l'art et aux artistes, aux peintres et aux sculpteurs. Et je pense que c'est vraiment une dimension qui est une dimension qui chez lui est assez internationale, c'est-à-dire qu'au fond il n'y avait pas chez lui de différence entre un artiste italien par exemple et puis un artiste cubain, pour ne prendre que des exemples comme ceux-là, ou l'intérêt qu'il a eu pour les artistes à la Martinique. Il me semble que pendant longtemps, toute une partie, je crois, de sa réflexion a consisté non pas simplement à s'intéresser au dialogue entre les littératures ou bien au dialogue entre les philosophies, mais au dialogue entre les arts. Mais les arts au sens le plus large possible. Alors là effectivement, il a rencontré des artistes, Valérie Adami, pour ne prendre qu'un exemple comme celui-là. Je pense que ce sont plutôt ces rapports-là. Maintenant, est-ce que l'œuvre de Glisson est une œuvre qui a une influence internationale? Je vous répondrai oui. Si vous ne vous intéressez qu'à... Qu'aux romanciers africains, par exemple. Alors, je prends ce cas-là. La jeune génération, la génération qui est née entre 1965, par exemple, et 1970, c'est-à-dire la génération d'Abdourahmane Ouabéry ou bien la génération d'Alain Mabankou, contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont jeunes. On croit qu'ils sont là depuis très longtemps, mais ils sont très, très jeunes. Ils ont subi deux influences. L'une qui est une influence très africaine, qui est l'influence de Kuruma, beaucoup plus vieux, et une qui est une influence martiniquaise, et c'est l'influence d'Edouard Glisson. Mais c'est une influence qui est une influence, dans le cas d'Edouard Glisson, qui est beaucoup plus subtile qu'on ne croit, parce qu'il leur a proposé une attitude vis-à-vis du monde. Alors, quand vous prenez leurs œuvres, vous vous rendez compte que comme Glisson, ils sont tous mis à penser le monde. Mais vraiment, à penser dans le monde. C'est-à-dire qu'après 1981, Glisson entre dans le monde. Il y était déjà avant. Mais de façon plus systématique, de façon plus affirmée, il se met à penser justement les relations qui peuvent exister entre les Martiniquais et le monde, les relations entre ceux qui n'étaient pas dans le monde et ceux qui sont dans le monde. Ou alors, je vais reprendre l'expression une fois de plus de Césaire, 1956, hein, c'est au congrès des écrivains artistes noirs de Paris. La dernière phrase, elle est absolument géniale. Il dit « Laissez entrer les peuples sans histoire sur la scène du monde, sur la scène de l'histoire ». Il le dit. Donc, c'est quand même la phrase qui permet aujourd'hui de comprendre toute la réflexion qui est celle de Glisson. Laisser entrer les peuples sans histoire sur la scène de l'histoire, mais c'est exactement ce qu'essaie de faire Glisson et ce que vont faire en fait la plupart des artistes après lui. Si vous regardez par exemple, même ceux qui ne lisent pas Glisson et qui trouvent que Glisson est très difficile, dès qu'ils se mettent à parler des rapports qui existent entre les sociétés africaines, les sociétés antillaises et les sociétés européennes, Glisson passe par là à un certain moment donné. Peut-être de façon très rapide à travers le concept du tout monde, peut-être à travers le concept de diversité, peut-être à travers le concept de reconnaissance d'opacité. C'est possible que ce soit des notions qui sont jetées comme ça un tout petit peu en l'air, mais il me semble que quand on regarde très bien, c'est sans doute après le trio Damas, Senghor, Césaire, c'est le quatrième. C'est le quatrième côté du triangle. En fait, la pensée de Glisson est de plus en plus en prise sur les jeunes générations. Je n'ai pas fait le travail en ce qui concerne les écrivaines, mais il faudrait le faire, savoir si Glisson a aussi influencé les écrivaines ou pas. Mais je pense qu'il faut le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on pourrait peut-être terminer par... je vous demanderai
pour le public peut-être de donner un conseil de lecture sur la philosophie, puisque ce soir c'est la soirée sur la philosophie, la prochaine ça sera sur la question de l'identité, de la négritude, et la troisième ça sera sur l'art. Vous deviez conseiller quelqu'un qui ne connaît pas encore l'œuvre de Glissant et qui a envie d'entrer un peu dans sa pensée, dans ses concepts précisément, dans ses figures, quelle serait votre recommandation? Alors, Alyosha, peut-être.
Moi, je recommanderais l'adresse à Barack Obama sur l'intraitable beauté du monde.
Qui est écrite avec Chamoiseau.
Voilà, écrite avec Patrick Chamoiseau. Voilà, qui est un très très beau texte, à la fois personnel, humaniste, philosophe, penseur du tout monde, et qui d'un seul coup, voilà, ouvre une nouvelle page de son, voilà, à la fois de l'histoire du monde et en même temps aussi de sa propre pensée qui chemine et qui accompagne les bouleversements du monde. C'est vrai que c'est un, comme d'autres textes de Glissant, on peut les lire à plusieurs niveaux, on peut les regarder aussi avec l'œil plus esthétique, plus politique, plus philosophique, mais celui-là me semble à la fois concilier justement ces différents ordres et apporter aussi un très beau regard philosophique sur le monde.
D'accord.
C'est une question très difficile, je trouve. Je dirais peut-être, et cela vous paraîtrait peut-être étrange, que...
Micro.
Oh, pardon, excusez-moi. Oui, je disais justement que c'est une question très difficile. Je crois quand même, et cela pourrait vous étonner, que je proposerais comme entrée dans l'œuvre des Glissants pour quelqu'un qui n'est pas du tout au courant de ses idées, c'est l'introduction à une poétique du divers. Parce que c'est très accessible, ce sont des conférences et des interviews, mais c'est très sérieux aussi, enfin, ce n'est pas du tout une œuvre de vulgarisation, et on peut trouver là toutes les idées clés, plus ou moins, de son travail. Aussi parce qu'il y a de la discussion, alors il y a des gens qui posent des questions après les conférences, et ça aussi, c'est très intéressant de voir comment Glissant prend les questions, explique et tout ça.
Romuald ?
Alors ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Peut-être que je recommanderais quand même Soleil de la conscience, qui est le premier essai, parce qu'il y a à peu près tout. Il y a le récit de voyage, il y a la réflexion philosophique, il y a la poésie surtout. Et il y a un Glissant qui est sans doute un Glissant plus simple, plus ouvert, sur lui-même aussi, et sans doute qui fait alors là un travail que je trouve plus novateur dans les années 50 quand même, et que l'on ne trouvait pas du tout dans la littérature des Africains ou bien des Antillais, c'était d'une vérité sur soi. C'est comment est-ce que les écrivains, ou comment est-ce qu'un jeune écrivain, ou comment est-ce qu'un jeune venu de Martinique découvre en fait Paris. Et il le découvre, j'allais dire, sans avoir besoin sans la nécessité toujours de tenir un discours critique. En fait, assez souvent, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, assez souvent, les écrivains africains qui arrivent ont besoin de faire la critique, d'être dans la négritude tout de suite, d'être dans la revendication, d'être dans la défense. Glissant ne fait pas ça, en fait. Il dit, écoutez, je suis arrivé dans ce pays que je ne connais pas, je suis séduit. Je suis séduit par quoi ? Par la neige. Et la neige a ceci de particulier, dit-il, que cela apporte le rythme. Pour celui qui vient d'un pays sauvage, le retour des saisons, ça le calme. Ça lui permet, n'est-ce pas, de comprendre l'ordre. Et alors dans cet ordre, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais me situer? Est-ce qu'il faudrait que j'invente un nouvel ordre dans cet ordre? Est-ce qu'il faudrait que je suive l'ordre qu'on m'impose? C'est vraiment une réflexion qui est une réflexion d'une intimité, mais absolument, absolument géniale, que je trouve, parce que c'est, à mon sens, la première fois dans l'histoire de cette littérature francophone venue du Sud, à Paris, qu'un écrivain dit sa vérité à lui sans se poser en fait la question de la vérité des autres qui sont comme lui. Alors d'ailleurs, il dit, ils sont venus dans ma chambre, allez, bientôt c'est une malédiction, on commence à faire des lois, des règles, la politique. Non, c'est pas ça qui l'intéresse, lui. Mais c'est très clair, il veut absolument faire une œuvre. Et dès le départ, je pense, il veut faire une œuvre qui est une œuvre sérieuse de quelqu'un qui veut penser à partir de lui-même. Et il me semble que Soleil de la conscience, c'est peut-être l'ouvrage que je recommanderais. Les autres sont trop compliqués, peut-être.
Ou après, plus tard. Merci beaucoup. Oui, on peut les applaudir. Je vous donne rendez-vous le 12 mars, et c'est dans 2 semaines déjà. Donc, même lieu, même heure. pour une réflexion sur la notion d'identité et le débat de Glissant avec la négritude.
Merci François Nudelman. Effectivement, merci à vous tous pour ces exposés clairs et ces débats assez riches. Comme le disait François Nudelman, la deuxième séance de ce cycle aura lieu dans 15 jours, donc le 12 mars à 19h, au même lieu, et traitera de la question de l'identité, nouvelle philosophie de l'identité. Je vous précise que ce débat était diffusé en direct sur la web TV de la BPI. Il sera donc archivé, vous pourrez le retrouver sur le site de la BPI, donc à la web TV, comme les prochains. Et je vous donc reprécise ce que je vous disais au début, c'est que François Nudelman, donc si vous le souhaitez, va faire la dédicace de la biographie d'Edouard Glissant qui est parue chez Flammarion la semaine dernière. Donc ce sera juste à la sortie de la salle. Merci à tous et à très bientôt.